Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées et bénévoles de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Au menu de cette émission du vendredi 19 janvier 2018, nous ferons un retour sur le concert de Chassol. Ça se passait hier soir du côté du Cube à Évreux. Et puis on a laissé traîner nos micros et ce monsieur Chassol a bien voulu répondre à nos questions. On vous en proposera un extrait parce qu'on a enregistré un long échange. On ne pourra pas tout diffuser ce matin, mais en tout cas un bel extrait dans cette émission. Et puis aux alentours de 8h30, on retrouvera Julien comme chaque vendredi qui viendra nous parler de cinéma, de séries ou de cinéma et de séries. On vous fera évidemment un détour du comté du côté des bons plans avec encore des choses à vous annoncer, des choses à vous dire ce matin et surtout des choses à vous faire écouter dans notamment les concerts qui se profilent sur ce week-end de festivités entre Rouen, Évreux, Conches, Verneuil-Breteuil, voilà, un peu partout où nous sommes. Le tout vous sera servi avec de la bonne humeur et du bon son. En tout cas, on l'espère. On va écouter justement un premier titre de Tony Allen qui, on vous le rappelle, si vous n'avez pas l'info, se produit ce soir en concert du côté du 106 à Rouen à partir de 20h. Et on va écouter le morceau de Tony Allen, le morceau Alouterré. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
Thank you.
Tony Allen avec le morceau Alutere. Et donc, je vous rappelle qu'il est en concert ce soir, ce vendredi 19 janvier, du côté du 106 à Rouen à partir de 20h.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, la light est mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 du côté du sud du département de l'Eure et 99.1 évidemment du côté de Rouen. D'habitude à cette heure-ci, nous diffusons vos messages répondeurs, vos réactions, vos avis, vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos remarques, vos infos ou juste quand vous avez envie de nous donner de vos nouvelles. Il n'y en avait pas ce matin, je vous rappelle le numéro au 02 32 62 57 32, je le répète, au 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est aussi la vôtre. Avant de retrouver un extrait de l'échange que nous avons eu hier soir avec Christophe Chassol qui se produisait, on rappelle, au Cube à Évreux, une petite autre découverte, découverte entre guillemets parce qu'on en a déjà diffusé dans cette émission. Le groupe s'appelle Speed Caravan et on va vous proposer le morceau The Warriors. Speed Caravan avec le morceau The Warriors.
Oh bah c'est bien, c'est bien. Et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans être...
Oui. Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Nous sommes avec Christophe Chassol qui s'est produit ce jeudi 18 janvier du côté du Cube à Évreux. Bonjour à vous.
Bonjour Timothée.
Enchanté. On va commencer peut-être par le départ, parler de votre démarche. J'aime beaucoup d'ailleurs, il y a un côté très poétique dans l'appellation harmoniser le réel. Ça consiste, mais vous l'expliquerez bien mieux que moi dans quelques instants, à partir d'une image, d'un son, jouer avec le montage, le dupliquer, manipuler ce qu'on a capté pour en créer un motif rythmique et visuel. J'ai rien inventé, hein, j'avoue tout aux auditeurs, j'ai repompé des choses un peu sur internet. Un objet filmique et musical, et on est vraiment là au cœur de la démarche, parce que c'est pas uniquement de la musique, il y a aussi tout un aspect vidéo, et tout ceci ça porte un nom, l'Ultrascore. J'ai découvert ça en m'intéressant à vous, Christophe. Comment ça se passe concrètement, cet Ultrascore? Quel est un peu le, comment vous le définissez, cette démarche?
L'Ultrascore, c'est un mot que j'ai donné et qui est resté, c'était un peu une blague. J'aime bien donner des noms, nommer les choses pour qu'elles existent. Et donc j'ai fait beaucoup de musique de film. Et quand on fait de la musique de film, on dit le mot score, faire un score de musique de film, ce qui veut dire partition en anglais, score. Donc j'étais parti de l'idée que un score traditionnel, une musique de film traditionnelle, enfin en tout cas au début du cinéma, c'était très figuratif. C'est-à-dire que quand je donne souvent cet exemple, mais quand je suis pas un truc à la Tex Avery ou ce qu'on appelle le Mickey Mousing, c'est-à-dire que un chat qui dégringole d'un escalier, on va avoir une cascade de piano qui va faire et après donc voilà, c'est très figuratif. Le score, la musique de film, ça a évolué ensuite et on se retrouve avec des réalisateurs qui vont demander aux musiciens, aux compositeurs de faire le hors-champ, par exemple, c'est-à-dire de faire la musique de ce qu'on ne voit pas à l'écran, ou bien de faire la musique de ce qui se passe dans la tête du personnage, des choses assez psychologisantes. Et donc moi, en manipulant mes propres images, en me servant du son de mes vidéos pour faire la musique d'une vidéo, en me servant, par exemple, si je filme un chien qui aboie devant un taxi qui klaxonne, donc j'ai eu « waouh waouh » et un taxi qui fait « pam pam », j'ai eu « waouh waouh pam pam », ça fait « waouh waouh », ça fait faire « waouh 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 ». Et puis un taxi qui fait voilà, je vais manipuler tout ça, ces sons, pour que ce soit la musique de cette vidéo. Donc c'est le degré, c'est-à-dire c'est pas figuratif, c'est hyper objectif. Et donc super objectif, c'est de l'ultra score, un score ultra qui est au degré, il n'y a pas d'affect, si tu veux, c'est objectif. Mais c'était plus pour me marrer que j'ai fait ce nom-là, ou pour que ma pratique commence à exister. Et ça tient, ça c'est resté. Donc voilà, le processus, c'est je pars filmer des choses, de la matière. Dans cette matière, il y a du son. Et ce son, je le manipule en le dupliquant, en l'étirant, en le superposant, en rajoutant des accords, en jouant la mélodie des sons qui sont dans mes vidéos. Voilà comment ça se passe.
Justement, le choix des images, des sons, ou des gens aussi que vous filmez, que vous enregistrez, est-ce qu'il y a des choses préétablies? On va en parler dans un petit instant, mais il y a eu, et ça a donné lieu à chaque fois à des créations, à des albums, des voyages à la Nouvelle-Orléans, en Inde, plus récemment à la Martinique. Est-ce qu'il y a eu du repérage avant? Vous êtes parti dans ces lieux-là parce que c'était un choix délibéré, ou vous vous laissez plutôt porter au gré des rencontres et puis de ce que vous disent les gens? Voilà, comment ça se passe un peu le choix des gens et des lieux?
C'est un mélange entre de la spontanéité et puis beaucoup de préparation. Donc, enfin, déjà, avant de commencer un projet, avant de commencer un travail, j'aime pas trop le mot projet. On a toujours l'impression que les choses vont pas se faire avec le mot projet. Donc, avant de commencer un travail, je me pose une question à laquelle j'essaie de répondre le plus honnêtement possible, qui est, que veux-je faire, que veux-je dire? Donc j'essaie de répondre à cette question, ça prend c'est des phrases assez longues en général, c'est bah j'ai envie de montrer le pouvoir de la musique, quelle sensation il y a entre de passer d'un accord à l'autre, par exemple voilà, je joue un do majeur et un la mineur. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux accords? J'ai envie de parler de la musique et donc ensuite les choses extra-musicales qui sont par exemple, j'ai envie de parler de la culture pour mon dernier disque Bixon, j'ai envie de parler de la culture antillaise, j'ai envie de parler de la nature, j'ai envie de parler du carnaval, ce moment dingue où tout se renverse. Donc je repère des... Déjà, ce que j'ai fait pour Bixon, c'est que j'ai regardé plein de documentaires sur les Antilles, la musique antillaise, que je connais déjà quand même pas mal. Je relevais les noms de certaines personnes, je les contactais, ceux que j'avais envie de filmer. Il y a des gens dont je connais le nom déjà, que j'avais vraiment envie de filmer. Il y a un flûtiste dans le film qui s'appelle Mario Masque, qui était sur les disques de mon père déjà. Donc voilà, lui, j'avais vraiment envie de l'avoir. Je voulais avoir des oiseaux pour harmoniser des oiseaux. Je voulais... donc filmer le carnaval, donc je fais des repérages, j'appelle des gens, et ce que je fais, c'est je laisse souvent une journée, je prends des rendez-vous, et je laisse une journée de battement entre les rendez-vous. Parce qu'en général, quand on va quelque part, on nous dit tout le temps, il y a la phrase, ça revient tout le temps, c'est « Ah, mais c'est dommage que vous ne soyez pas venu hier, il y avait un groupe super, il y avait un musicien génial, et tout. Bah, » Donc, donne-moi son contact, on va aller le voir, on a une journée demain de libre. Donc, et là, il y a la spontanéité qui est là, mais après, j'ai des rendez-vous, des choses préparées, des choses que je veux avoir.
Qu'est-ce qui se passe justement pendant ces rencontres? Vous parliez de musiciens, ou voilà, qu'est-ce qui se dit pendant les rencontres? Il y a le moment où vous les captez, vous les filmez sur une scène. D'ailleurs, est-ce que c'est mis en scène ou il y a, enfin voilà, à quel moment vous influencez sur ce que vous cherchez chez les gens?
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est mis en scène ou pas?
Alors j'ai pas vu tous les films ou les non, il y a des choses qui sont très très spontanées, je pense à des scènes de vie en Inde, de scènes de vie quotidiennes. Dans Bixon, il y a cet homme qui siffle merveilleusement bien et on le sent habité parce qu'on le voit jouer au piano, sur un piano virtuel, ce qu'il est en train de siffler. Ça, je pense que c'est complètement naturel, spontané, enfin en tout cas je pense, voilà.
Ouais, pareil, c'est un mélange, mais c'est-à-dire qu'en fait la position de la caméra, en fait celui qui regarde par la caméra, quoi qu'il arrive, il fait de la mise en scène de toute façon. C'est comme Jourdain, il fait de la prose malgré lui. Enfin, la caméra, de toute façon, elle a un regard, elle est située quelque chose, ou en quelque part, elle peut rester stable, elle peut se déplacer. Ça y est, c'est de la mise en scène. Après, il y a de la mise en scène plus ou moins explicite, préparée. En général. Moi, je circule avec une petite équipe qui est Johan Levasseur, qui est un de mes ingé-sons et qui prend les sons à la perche, et Marie-France Barrier, qui est la chef opératrice. Moi, je suis le réalisateur, donc on est un trio comme ça qui se déplaçons et on joue chacun nos rôles. C'est-à-dire que moi, je mets en confiance les gens qu'on rencontre, je leur montre déjà des vidéos que j'ai faites, pour leur montrer à quelle sauce ils vont être travaillés. Je leur parle de musique. Souvent, je compose des grilles d'accords avant d'y aller. Donc, je leur joue. Ou si c'est des musiciens, je leur demande de me les jouer. Je leur pose des questions comme un journaliste. Je les interviewe, en gros, en résonance avec ce que je vous disais avant, qui était que veux-je faire. Si j'ai envie de parler des accords, je leur parle d'accords. Si j'ai envie de parler du rôle de la basse, je vais leur dire ça. Si j'ai envie de parler de quelque chose d'extra-musical comme leur culture, eh ben, je parle de ça, je les laisse parler. Parfois, il y a un petit peu de mise en scène quand je vais demander, je sais pas, la caméra de tourner autour d'un musicien ou de se déplacer en faisant un travelling. J'essaie de pas trop perdre de temps sur la mise en scène pour qu'il y ait ce côté un peu direct. Après, parfois, il y a besoin un peu de plus de mise en scène. On peut demander à des gens de s'aligner, voilà, donc il y a une approche très, très documentariste, mais la mise en scène, comme je vous dis, c'est la caméra, quoi qu'elle fasse, elle met en scène. Il y a un cadre, donc ça met en cadre, quoi.
Dans la relation avec ces personnes filmées au gré des rencontres, j'imagine que peut-être il y a un moment où vous leur montrez, ou en tout cas ils viennent à vos concerts. Enfin voilà, est-ce que les gens voient entre guillemets le produit fini, en tout cas ce que vous avez produit après tout ce travail, et quelles sont leurs réactions si vous les avez eues?
Oui, enfin, ils ont tous vu quasiment, sauf peut-être une personne en Inde, un violoniste de rue dont j'ai jamais retrouvé le contact, donc j'ai que le prénom, et je suis assez désolé qu'ils voient pas ce qu'on a fait avec sa superbe mélodie. Mais sinon, oui, ils ont tous vu. En Inde, on a fait une tournée. À chaque ville, ils sont passés. Les danseuses d'Indiamore sont venues. Les percussionnistes.
C'est important, ça, que les gens les voient.
Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est de les magnifier, de les rendre plus beaux. Par exemple, il y a un truc que je fais jamais, c'est d'accélérer les images parce que ça rend les gens, ça ridiculise. C'est un peu à la Benny Hill, tu vois. Mais les ralentir, en revanche, ça donne beaucoup de noblesse. Mais alors, de toute façon, j'ai pas eu trop de crainte que ça leur plaise pas. C'est-à-dire que, en gros, je suis là je veux les rendre plus beaux. Moi, c'est les gens que je mets dans mon disque dur, je les aime à fond. J'adore les séquences. S'il y a une séquence avec laquelle j'arrive pas à travailler, c'est que voilà, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui va pas. Tout ce que je sors, je l'aime d'amour. Donc les réactions sont, ils le sentent, ils l'ont senti jusqu'à présent. Il y a personne qui m'a dit c'est quoi ça.
On est dans cette démarche d'harmoniser le réel. On en parlait.
Il y a juste un musicien indien qui assez connu, un percussionniste qui est dans Indiamore, qui s'est fait un peu mettre à l'amende par les puristes des gens autour de lui, qui mais qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo, tout ça. Et lui avait pas encore bien vu. On lui a montré, on a joué, tout ça, et il a compris et il a dit fuck them all, les puristes.
Et oui, on disait harmoniser le réel, magnifier quelque part les gens au travers de ce que vous en faites. Mm-hmm. Est-ce que quelque part c'est parce que la réalité vous semble parfois trop chaotique et il y a besoin de d'embellir ?
Non, il n'y a pas besoin d'embellir, mais c'est plutôt une démarche de dévoiler. Mais plus parce que, en fait, c'est mon métier, la musique. Je suis un professionnel de la musique, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme une mission de, vu que je passe mon temps à faire ça, c'est mon domaine. Dans ce domaine, je sais à peu près, je vois comment dévoiler des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que, comment dire, dans un son potentiellement, un son a plein d'existences potentielles. Et donc, c'est une pratique que j'ai d'essayer de dévoiler tout ce qu'il y a en dessous de ce son. Mais par exemple, c'est comme en littérature, si tu écris une phrase, qui, par exemple, je sais pas, le chien court vers la maison, donc en dessous du mot chien, il y a plein d'autres réalités il y a plein de réalités. Il y a chien, meilleur ami de l'homme, ennemi du chat, bête sauvage, animal domestiqué. Il y a tout ça, et c'est un peu la même chose quand tu vois, je vais filmer une mélodie. Selon l'accord que je vais mettre en dessous de cette mélodie, tu vois, par exemple, je sais pas, dis-moi quelque chose, dis-moi une courte, deux, trois mots.
Je suis curieux de voir le concert de Chassol parce que...
Oui, non, mais plus court, plus court.
Je suis curieux de
un tout petit peu.
De voir Chassol.
Redis là.
Je suis curieux de voir Chassol.
Je suis curieux de voir Chassol. Je suis curieux de voir Chassol. Je suis curieux de voir Chassol. Donc, si j'ai ça, tu vois, je vais lui donner plusieurs réalités. Donc, grâce aux accords, grâce à l'harmonie, à la verticalité, je peux donner plusieurs réalités à... Mais ça peut être aussi. Voilà, il y a harmonisé, c'était pas. Tu vois, je répète les images, je répète les mélodies issues des images, et chaque fois qu'elles se répètent, je mets un accord différent en dessous, ce qui permet d'entendre toujours la même chose et de voir la même chose qui se répète, mais avec une réalité différente, puisque j'ai mis un accord différent en dessous. Une autre, chaque accord véhicule des émotions différentes, tu vois, enfin, quand tu joues, et puis comment les accords sont construits. Par exemple, je vais faire un Fa majeur. Donc, j'ai mille façons de faire un Fa majeur. Donc, Fa majeur, a priori, ça va être ça. Voilà. Mais je peux le faire comme ça aussi. Donc, tout de suite, on est plus dans le mystère, tu vois. Mais là, on est dans quelque chose de stable, tu vois. Et si je fais. Donc voilà, il y a plein de réalités grâce à la science de l'harmonie.
La question que je me posais, ça pouvait peut-être être perturbant. Est-ce que dans votre vie quotidienne, quand vous croisez des gens, vous discutez, est-ce que vous entendez ces harmonies, ces mélodies qui viennent naturellement? Comment ça se passe?
En fait, il y a une différence entre écouter et entendre. Donc bon, on entend, mais écouter, c'est comme un interrupteur quoi, qu'on actionne. Donc si je décide de vraiment écouter, j'entends en effet les intonations, les hauteurs, j'entends que ça fait un dessin comme ça. Enfin, moi j'ai vraiment le clavier en tête, de toute façon j'ai mes 12 notes en tête, et donc je sais quelle courbe ça fait, et puis après je la retrouve. En général j'actionne pas comme ça, mais après si je me balade tout seul, ouais, j'actionne, parce que c'est très très fun.
Est-ce qu'il y a des langues ou des dialectes qui s'y prêtent mieux? Et je pense aussi au langage politique ou théâtral. Et là, il y a les images notamment du... ce que vous avez fait avec le discours d'Obama notamment. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des langues, quelles qu'elles soient au sens large, et plus particulièrement des langues politiques qui s'y prêtent?
Bah, en fait, on pourrait croire qu'il y a des langues beaucoup plus musicales que d'autres, mais finalement, je veux dire, C'est pas parce qu'il y a un intervalle plus gros, plus grand, qu'il est plus intéressant qu'un demi-ton. Alors par exemple, j'ai fait, on pourrait se dire que le portugais, le brésilien, qu'est-ce que j'ai ? Tu vois que c'est plus intéressant qu'un truc de vietnamien qui ferait, tu vois. Mais en fait, c'est hyper intéressant de bosser sur des demi-tons, enfin sur du. C'est aussi intéressant que. Non, il n'y a pas de langue plus intéressante que d'autres. Et le discours politique, il y a peu de politiques qui m'inspirent. Donc, il est souvent trop théâtral. Et le discours d'Obama, je l'ai fait aussi parce que c'était la personne la plus connue du monde à l'époque, et que ça faisait longtemps que je voulais faire un discours politique. Mais ça met en relief le fait qu'il soit très acteur, quoi, qu'il joue. Il fait « If you decide to support somebody named Barack Hussein Obama for president », enfin, tu vois, tu sens le type qui est vraiment un acteur, quoi, un ricain, hyper acteur. Après, j'ai fait Christiane Taubira à l'Assemblée nationale, qui fait 20 minutes de discours sur le mariage gay. J'ai fait ça et elle est beaucoup plus sincère, par exemple. Mais après, j'ai pas trouvé beaucoup de politiciens qui m'ont inspiré.
Voilà, un extrait de la rencontre avec Christophe Chassol qui se produisait hier soir en concert du côté d'Evreux au Cube. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce que nous y avons capté mercredi prochain à partir de 12h30 sur l'antenne de Principe Actif dans l'émission Bulles et Reportages. On repart en musique.
Balu, koblala ein nutschis, erdale batisch, sankan öderdisch, malkeschi segenet, sobekum gedeinisch, malkeschi segenet, sobekum gedeinisch. Almas nesh Ethiopia with loga Hulu yad nekesh kekolaske dega Giro yedilishin unchi matasabia Simish no kengidi Wezerit Ethiopia Simish no kengidi Wezerit Ethiopia. kez ish lomi bertukan no gumchish sagrushya beselom makano angetish tudotish mandarin yaskom jinnet yalesh wezerid ethiopia minti tabkalesh wezerid ethiopia minti tabkalesh
Chanteur éthiopien Dima Bayene, accompagné par le groupe d'Ethio Jazz français Akale Wube, c'est sorti dans la collection Les Éthiopiques, dirigée par le français Francis Falsetto, aparté qu'on avait eu la chance de rencontrer avec l'ami Laurent pour l'émission Les Bruits du Monde il y a plusieurs mois déjà. On vous invite à vous rendre sur les podcasts qui vont bien sur le site internet de la radio Principe Actif pour écouter cet échange. On était allé justement chez Francis Falsetto, lui parlait de cette collection Les Éthiopiques qui existe depuis déjà une bonne quarantaine d'années.
Mais tu sais, je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
C'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
On devrait retrouver l'ami Julien pour parler cinéma et série au bout d'un moment dans cette émission. Mais en attendant qu'il vienne jusqu'à nous, on va vous proposer des bons plans pour aller pour sortir, pour voir des choses, notamment en concert ou des spectacles de théâtre ou encore des expositions. On vous rappelle notamment, on avait ouvert cette émission avec un de ces morceaux, qu'il y a le concert de Tony Allen ce soir du côté du Sensi à partir de 20h, ça se passe à Rouen. Toujours à Rouen, ce soir à partir de 19h30, vous pourrez retrouver le groupe The Angies en concert en duo. Ça se passe du côté du Chaméran à Rouen. Donc, on va vous en passer un extrait dans quelques instants, mais on vous rappelle la release party du groupe de Hardcore Elephants qui partagera la scène ce soir avec Hard Mind, Nothing to Lose et Brûlé Vif. Ça se passe du côté du 3 pièces à Rouen. On en écoutera un extrait dans un instant, mais je vois que Julien est arrivé. Je vais vous prendre de court comme ça, ami Julien. Installez-vous tranquillement, chaussez-vous d'un casque, rapprochez-vous du micro. Bonjour Julien, comment ça va?
Salut mon team, ça marche le micro là?
Ouais, ouais. Bah, ah oui, mais c'est parce que j'ai oublié de vous monter les retours.
T'as vu, j'ai bravé les éléments.
Vous avez l'air trempé.
Oui, un petit peu. Il pleut un petit peu ce matin. Et ça va pas être mieux ce week-end, malheureusement.
D'accord. Vous faites aussi. Vous parlez pas seulement de cinéma et de
météo
série.
Aussi. La météo. Il faut être multicarte aujourd'hui. Hein.
Et est-ce que je vous laisse le temps de vous installer. On écoute un petit morceau, puis on revient juste après. Ça vous va comme ça?
Ouais, puis ça sent le soleil, ce morceau.
C'est bien. Ça sent le soleil. Je sais pas. tiens, on en parlait. Je sais pas si ça sent le soleil, mais ça va vous réveiller. Je vous ai saucé toute la semaine avec ce groupe, et je les aime tout particulièrement. C'est pour ça que j'en mets un peu tous les jours. J'en parlais à l'instant. Release party du groupe de Hardcore Elephant, ça se passe ce soir du côté du 3 pièces à Rouen. On en écoute un extrait, le morceau s'appelle Your Grave. Elephants avec le morceau Your Grave. On vous rappelle qu'ils sont donc en concert ce soir aux trois pièces à Rouen à l'occasion de leur release party. Ils partageront la scène avec Hardmind, Nothing to Lose et Brûlé Vif.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDL.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principatif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principatif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Ouais, ça doit être à peu près ça. C'est à peu près nous.
C'est oui, c'est ça.
Chose promise, chose due, on retrouve Julien pour nous parler ce matin de cinéma et notamment du grand retour de Steven Spielberg.
On espère l'idée. Qu'il sera grand en fait.
Moi je vois les choses en grand.
Hein. Oui, oui, alors pourquoi on va en parler ? Parce que le 24 janvier sort Pentagon Papers, le nouveau Spielberg. Après quelques années un petit peu de vache maigre, hein, Lincoln, Cheval de guerre, c'était pas terrible. Cette année, il sort deux films. Donc, il y a Pentagon Papers qui est parfait pour les Oscars. Il y a Tom Hanks, il y a Meryl Streep. C'est un très bon film d'après les premiers tours. Et au mois de mars, dans deux mois, vous allez retrouver Ready Player One, qui est peut-être le plus gros blockbuster de l'année. Donc, voilà. Donc, on va beaucoup parler de Spielberg. On aura l'occasion de revenir sur ces deux films. Et ce matin, je me suis dit, on va reparler un petit peu de ce qui a fait que Spielberg est devenu ce qu'il est devenu. Je ne sais pas si c'est très clair. On va revenir aux sources de la légende, parce qu'il est sans doute aujourd'hui encore le réalisateur le plus célèbre dans le monde entier. Voilà. Il n'y a peut-être que Alfred Hitchcock qui est aussi connu que lui dans le monde, mais c'est à peu près tout. Et tout a commencé en fait en 1974. Donc ça ne nous rajeunit pas. Moi, je n'étais pas né. Toi non plus.
Non, je ne crois pas.
On va parler du film qui a tout changé pour Steven Spielberg. Qui a tout changé parce qu'en fait, rien ne se passait bien sur ce tournage. C'était une catastrophe. Tout était catastrophique. Même Steven Spielberg était catastrophique. Et c'est ce qui a tout changé. C'est Les Dents de la Mer. Voilà, le premier blockbuster du cinéma. C'est comme ça qu'on le surnomme. Ce n'est pas tout à fait exact. Hein. Il y avait déjà des gros péplums dans les années 50. Alors, blockbuster, on va redire vite fait, c'est un peu les grosses machines hollywoodiennes, les gros films où il y a des gros moyens logistiques humains, puis qui sont faits pour rapporter aussi beaucoup d'argent. Et Les Dents de la Mer a été le plus grand succès à son époque, et c'est un petit peu ce qui a donné naissance au genre, et surtout au film d'été, voilà, qui est devenu une tradition américaine après, et Steven Spielberg, ça a été un peu le maître étalon du genre pendant des années. Il a régné en maître sur le genre, il a tellement enchaîné de succès qu'il a un petit peu tout vu, tout fait. Et Les Dents de la Mer, donc, quand il attaque ce film, il est encore personne. C'est un tout jeune réalisateur qui vient de la télé. Il avait réalisé quelques épisodes de Columbo, et puis le téléfilm qui est devenu très connu depuis, Duel, qui avait beaucoup plu aussi à l'époque. Mais, comment dire, faut revenir un peu dans le contexte. On est dans les années 70, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui est émergente. Il y a lui, il y a Brian De Palma, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola.
Que des grands, quoi.
Que des mecs qui sont pas très connus, tu vois. mais qui étaient très jeunes, qui sortaient des écoles et qui tentaient de faire leur trou à Hollywood. Spielberg a été un des premiers à travailler, en fait, pas au cinéma, à la télé. Il faut savoir que sur les plateaux de tournage à cette époque, la moyenne d'âge, c'était 50 ans. Donc forcément, lui qui avait à peine 20 ans, et encore, il trichait un peu sur son âge, parce que quand il a commencé à travailler à la télé, il n'était même pas majeur. Donc en fait, il n'avait pas trop le droit d'être toujours là, mais il était tellement doué que bah il se faisait déjà beaucoup remarquer, mais personne ne l'aimait. Il faut savoir pourquoi. Pas parce que c'était un sale type, hein, pas du tout, mais parce qu'on trouvait que c'était qu'un gamin, quoi. Et voilà, ils avaient deux fois son âge et tellement plus d'expérience. Et lui, il arrivait, il mettait tout en place, il voulait leur apprendre à faire leur métier, quoi. Et en plus, bah, il avait raison, quoi. Ses idées de mise en scène étaient bien meilleures, alors qu'il sortait de nulle part. On savait même pas qui c'était. Donc c'était dur pour lui. On lui confie Les Dents de la Mer parce que personne n'en veut vraiment. C'est une adaptation d'un roman qui n'a pas une très bonne réputation à l'époque. C'est genre mauvais roman de gare, hein, le genre de livre qu'on lit que en été mais qu'on oublie une fois que la saison est terminée. Mais ils avaient flairé le potentiel commercial. Et Spielberg, ça on l'oublie un petit peu, mais c'est un passionné de films d'horreur. Et on oublie que Les Dents de la Mer, c'est quand même un vrai film d'horreur. Donc, comme quoi Spielberg a vraiment fait un peu tout au cinéma, a exploré tous les genres. Et donc, quand il se lance dans cette aventure, il y a un budget d'à peu près 4 millions de dollars qui va être explosé. Mais vraiment, on va passer jusqu'à 9 millions de dollars. L'essentiel du budget, c'est le requin. Le requin n'est pas en image de synthèse parce que ça n'existe pas à l'époque. Le requin est mécanique, c'est ce qu'on appelle un animatronique. Mais c'est une catastrophe. En fait, il marche jamais sur le plateau de tournage. Le problème qu'il a, ce requin qui s'appelle Bruce, ils l'ont surnommé Bruce, c'est que en fait, il marche pas dès qu'il est dans l'eau. Le problème, c'est que le requin, il doit être dans l'eau la plupart du temps. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par tourner la fameuse scène qui a fait cauchemarder des millions d'enfants à la fin, où on retrouve, c'est Quint, je crois, celui qui doit chasser le squale et qui va se faire bouffer, quoi. Et tout ça, on le voit, hein, tout est... Ils tournent cette scène-là, et après, dans les semaines qui ont suivi, il n'y a plus rien qui marche. Le requin, il flotte misérablement. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc là, c'est une catastrophe. Tout ce qui avait été prévu, parce que tout était très storyboardé. Alors, storyboardé, c'est tout est dessiné à l'avance pour limiter les frais, savoir ce qu'on fait. Rien ne marche. Et là, il y a toute l'équipe qui se retourne vers Spielberg, qui lui dit « Bon, bah, on fait quoi ?» Et il lui dit « Bah, j'en sais rien. » Alors, c'est une catastrophe qu'il y ait une interruption de tournage. Lui-même, il rentre, il se dit « Ma carrière est finie, c'est la dernière fois que je vais faire du cinéma. » Et ce qui complique encore les choses, c'est qu'un tournage sur l'eau, en plus, ça pose souvent d'autres problèmes techniques. Alors, en plus, là, il y a le requin qui est pas très coopératif. Et en plus, il est malade. Dès qu'il met un pied sur un bateau, il est malade à crever, le pauvre Steven. Donc, en fait, il dirigeait l'équipe avec un talkie-walkie, mais sur la terre ferme. Donc, il était tout le temps en train de gueuler, parce que même les talkies marchaient mal, la catastrophe. Et il est tout seul. Le gars est tout seul. Voilà. Et 20 mètres plus loin, il y a toute l'équipe et ils sont en train d'attendre, d'essayer de comprendre ce qu'il dit. Il parle avec des gestes et tout. Et personne ne se comprend sur le tournage, c'est une catastrophe. En deux semaines, il se met toute l'équipe à dos qui demande à Universal de virer ce petit con prétentieux. Renvoyez-le à l'école, il ne sert à rien. On ne le comprend pas. Et puis en plus, à l'époque, on est un peu rude. C'est le seul qui est malade, malheureusement, pour lui en mer. Donc on a l'impression que, il fait un petit peu sa starlette, c'est n'importe quoi. Il ne tiendra jamais le coup. Et bien Spielberg, il tente le tout pour le tout, il sait que c'est foutu pour lui. D'ailleurs, il le confie à des amis à l'époque, il dit « on fait ça, mais bon là franchement, je pense que ça sortira même pas en salle, c'est une catastrophe ». Et c'est là qu'il a une idée qu'il utilisera aussi par la suite, c'est qu'il bouleverse les plans de tournage, il se dit « bon, je peux pas utiliser tous ces plans avec le requin, on n'a qu'une scène qui marche, on la garde, elle est bien ». Maintenant, on va changer, à chaque fois qu'on voit le requin, on le verra pas. Il change sa mise en scène et c'est la meilleure idée du film parce que si vous le revoyez attentivement aujourd'hui, vous remarquerez qu'en fait le requin on le voit quasiment jamais. On fait que de le deviner, l'entre-apercevoir et c'est un gros travail sur le son, le montage qui fait toute la différence.
Mais cette façon de faire de la suggestion, ça marche très bien dans les films d'horreur en général.
Et d'ailleurs, ça a été beaucoup copié, voilà. Mmh. Ça a été copié maintes et maintes fois, beaucoup dans le genre, tu l'as dit, c'est vrai. Et ça a été beaucoup plus efficace, surtout en termes de terreur. Ce qui fait que quand on voit enfin le requin à la fin, ce qui était en fait la première scène qu'ils avaient tournée, on a vraiment les jetons, parce qu'on n'a fait que de l'imaginer, mais là, on le voit vraiment, puis il est plutôt bien fait. Là. Au moins, dans cette scène, il est très convaincant. Donc, il change tout, mais personne aime ces choix-là. Il manque de se faire virer plusieurs fois. Même le patron d'Universal, il lui dit « Écoute, on a dépensé 9 millions de dollars pour un requin qui ne marche pas. Tu nous l'as mis 5 minutes à la fin du film. On le voit pas, mais c'est une catastrophe. Les gens, ils vont vouloir voir le requin. En plus, le film, bon, le titre original, qui n'a rien à voir avec le titre français, c'est Jaws, c'est Mâchoire. Il dit, mais on les voit jamais, les dents du requin. C'est un problème, comment on va faire? Et Steven, il a dit, mais si, faites-moi confiance, vous allez voir, ça sera plus efficace comme ça. Tout en disant ça, il avait peur, quoi. Il est malade, il est vraiment malade, là, pour le coup. Et le film sort, et évidemment, ça va tout changer à Hollywood. Et c'est une leçon qu'il a retenue, il l'a souvent dit. Maintenant, quand je fais un film, je prépare beaucoup ce que je fais en amont, mais j'espère toujours qu'il va y avoir de l'imprévu qui va tout chambouler pour m'obliger à avoir une vraie bonne idée au moment du tournage. Et voilà, ça a été la clé de la réussite de Spielberg. Comme quoi, les grosses erreurs techniques peuvent peut-être vous pousser à devenir meilleur. Et c'est ce qui fait que Spielberg est devenu aussi légendaire. Et c'est ce qui fait aussi, on va terminer là-dessus, que c'est le seul réalisateur capable de sortir deux films quasiment en même temps. Alors, la question est ouverte. Spielberg est-il vraiment humain? En tout cas, on reparlera de Pentagon Papers sans doute la semaine prochaine. Et ça nous fait plaisir de le voir revenir aux affaires et de nous vendre et un film taillé pour les Oscars et un film taillé pour nous faire rêver. Spielberg, c'est ça, c'est le rêve au niveau mondial.
C'est très bien vendu. Hein. S'il avait besoin d'un nouvel agent pour promouvoir sa carrière, évidemment, il n'en a pas besoin. Mais
il n'en a plus besoin.
Il pourrait vous embaucher. En tout cas, ça nous donne potentiellement envie de revoir Les Dents de la Mer.
Ça vaut le coup de le revoir. En plus, il a très bien vieilli, le film. Il fait toujours flipper, faut pas croire. Ouais.
Merci à vous, en tout cas, Julien, long échange sur... long monologue plutôt sur Spielberg, mais éclairant. Et puis on avait, en tout cas à titre personnel, pas toutes ces infos, notamment sur les Dents de la Mer. Merci à vous d'être passé par nos micros. On vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien.
Mais tout va bien, la météo sera favorable, je serai là.
Et oui, c'est vrai, parce que vous faites aussi les points météo.
Oui.
Exactement. Je poursuis mon listing un petit peu de bons plans. Je reprends là où j'en étais. Ce soir, du côté de l'Emporium, on en avait parlé un peu plutôt dans la semaine, il y a une soirée Autistic Campaign, donc à l'Emporium Gallorium à Rouen, avec sur scène Romain Deferron, Urge, Rat Charmer et Tamagawa. Voilà, si ça, plutôt musique expérimentale, planante, concrète, des choses intéressantes à voir. On vous rappelle, on en avait parlé plutôt également dans la semaine, la nuit de la lecture, ça se passe, c'est une manifestation nationale, mais... résonance locale, notamment du côté de la bibliothèque médiathèque Roland Plaisance, à partir de 17h, à l'occasion de cette nuit de la lecture, la médiathèque accueille Muriel Bloch pour vous faire part notamment de contes pour les petits, mais aussi les plus grands, et la thématique, c'est autour de la Russie. Voilà, on parlera notamment de la figure de la sorcière Baba Yaga. Voilà pour les petites infos autour de cette nuit de la lecture, ça commence à partir de 17h. Samedi, on vous rappelle, et tiens, on va pouvoir en écouter un petit extrait également, samedi soir à partir de 20h30 à Rouen, à l'Oreille qui traîne, soirée musicale avec Grand Park, John McKay, Aldis Morrison, Seasonal Affective Disorder. On va justement écouter un extrait de John McKay, le morceau s'appelle Le Château de Cartes. We'll be right back. extrait intitulé Le Château de Cartes. C'est le groupe John Mackay qui partage la scène ce samedi du côté de l'Oreille qui traîne à partir de 20h30 avec Grand Park, Aldis Morrison et Seasonal Affective Disorder à l'Oreille qui traîne, MJC Saint-Sever, rive gauche à Rouen. Évidemment, on vous rappelle également le spectacle théâtral Les Filles aux Mains Jaunes. Ça se passe à Conches ce dimanche à partir de 16h30, à la salle de spectacle de Conches, donc, où ce spectacle propos est notamment l'émancipation féminine pendant la guerre de 14. Les mains jaunes, c'est parce que en manipulant les obus, ça leur rendait les mains jaunes. Voilà, on vous invite. Pourquoi pas, en tout cas, à attirer votre attention là-dessus. Également, l'exposition avec énormément de plasticiens, de peintres, de sculpteurs. Ça se passe du côté de Bon Secours à partir de ce samedi 20 janvier. Et vous pouvez retrouver l'exposition jusqu'au 4 février. Exposition dans laquelle on retrouve notamment l'ami La Boucle. Je voulais vous en passer un petit extrait, j'ai pas forcément le temps, on va pas le laisser en entier, mais juste le petit clin d'œil. La Conjuration des Fourneaux à Rouen lance les concerts petit-déj, ça commence à 7h du matin, donc à la Conjuration des Fourneaux, lundi 22 février, il y aura notamment le groupe Lado. On en écoute un court extrait avant de conclure, le morceau s'appelle Post Up. Un extrait de Lado qui s'appelle le groupe Lado, l'extrait s'appelle Post Up, et donc ils sont en concert lundi matin à 7h à la Conjuration des Fourneaux à Rouen.
Il y aura des croissants?
Je ne sais pas. je ne sais pas, mais je trouve le concept
est sympa.
Voilà, en espérant qu'il y ait des gens. C'est situé rue Saint-Hilaire, la Conjuration des Fourneaux à Rouen, donc il y a quand même souvent pas mal de passages. Ça peut.
C'est quoi le jour? Redis le jour.
Lundi matin.
Mais c'est bien pour commencer la semaine. J'aime bien l'idée.
Ça se tente. On va se quitter là-dessus sur les bons plans, les extraits audio de ce matin, puis on va vous annoncer le programme du jour sur les antennes de Principe Actif et d'HDR, en commençant par la radio HDR. À partir de, je prends mes petites notes. Je prends des risques. On est quel jour? On est vendredi, oui.
Pardon,
je remettais les choses au clair. Ce vendredi, à partir de 9h30, vous retrouverez la bulle du reportage sur l'antenne du 99.1 sur HDR. Donc, Black Voices, la rediff de 10h à 11h. Vous retrouverez ensuite l'air de rien de 11h à midi, du reportage dans le cadre de la bulle, de nouveau à 13h30 et à 16h. Le Blabla Mix, programme commun aux deux antennes animées par Romain, de 17h à 18h, vous en avez l'habitude. Bouillabasse, 19h, 20h. L'esprit du village, 21h, 23h. Et la soirée se termine en termes d'émission sur la radio HDR avec la rediffusion de l'émission de Raguz et Jean-Mi. C'est It's Time, 23h, 1h du matin sur l'antenne d'HDR. Sur l'antenne les antennes de Principe Actif, à partir de 9h, vous retrouverez le Flash RFI Monde. Vous le retrouverez également à midi. 15h, c'est la rediff ou les rediffs parmi toutes les émissions que nous produisons sur l'antenne de Principe Actif. Et bien voilà, vous en aurez une ou plusieurs au hasard. 17h, 18h, on en a parlé, c'est le Blabla Mix. À partir de 18h, vous retrouverez un privé à Babylone. À partir de 20h, ce sera Eldorado. Et puis Air Jam de 22h30 à minuit et demi sur l'antenne de Principe Actif. Monsieur Julien, je vais vous souhaiter, tout comme à nos auditrices et auditeurs, une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Oui, ça vous fait plaisir. On vous retrouve, comme on le disait tout à l'heure, vendredi prochain pour nous parler de cinéma.
De météo aussi.
Et de faire un point météo pour la fin de semaine. Voilà, les points météo pour le week-end. Quant à moi, je vous retrouverai jeudi et vendredi de la semaine prochaine pour la matinale. Lundi, c'est Monsieur Mosquito. Et mardi, mercredi, ce sera la Mideuse. Une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Ciao.